voix nue. Cette semaine, Raphaël Rérol rencontre Françoise Mouly. Ce soir, une jeune Française aux États-Unis.
Elles sont tour à tour provocantes ou énigmatiques. Elles portent sur le monde un regard souvent très aigu et parfois plein de tendresse. Elles suscitent le rire et toujours la curiosité. Même les auditeurs qui n'ont jamais lu le magazine The New Yorker connaissent peut-être les couvertures dessinées de ce magazine américain. Ces couvertures qui n'ont pas peu contribué à sa renommée mondiale. Ce sont des couvertures qui sont réalisées par des dessinateurs du monde entier et qui ouvrent sur un contenu, celui du journal, qui a lui-même une identité graphique très spéciale et qui fait une grande part au dessin. La directrice artistique du New Yorker, qui est donc la chef d'orchestre de cet ensemble remarquable et renommé, est française. C'est une figure éminente de l'histoire contemporaine de l'illustration et de la bande dessinée aux États-Unis et au-delà. Elle vit aux États-Unis depuis longtemps maintenant et c'est avec elle que je vais avoir le plaisir de discuter pendant tous les soirs de cette semaine. Bonsoir Françoise Mouly.
Bonsoir Raphaël, c'est un plaisir.
Nous sommes assis autour d'une table en pin. La technique a été obligée de vous demander d'arrêter de crayonner et de dessiner des petits carrés verts sur un cahier qui est devant vous. Et donc voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être dans le dessin,
mais ça faisait du bruit.
Ça faisait du bruit pour le micro, donc voilà, on a été obligé de vous demander d'arrêter. Je voudrais commencer ce soir par le commencement, c'est-à-dire par votre vie d'avant les États-Unis. C'était une vie un peu brève, hein, puisque vous y êtes arrivé à 19 ans et vous n'en êtes plus reparti. C'était une rébellion, cette vie-là, parce que vous aviez été destiné par vos parents à... ils souhaitaient ardemment que vous preniez la succession de votre père, qui était un pionnier de la chirurgie plastique. Et ça n'est pas ça que vous avez voulu faire. Vous avez plaqué votre école d'architecture pour partir aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous avait poussé vers cette rupture?
Je cherchais quelque chose sans savoir qu'est-ce que ça allait être. J'étais frustrée, j'étais ravie des études d'architecture que je faisais aux Beaux-Arts. J'adorais apprendre à dessiner, j'adorais mettre les mains dans la glace. Et j'aimais beaucoup la formation qu'on nous donnait parce qu'on nous donnait un projet tous les 2-3 mois, et il fallait trouver un parti. Et c'est une très très bonne façon de penser, c'est-à-dire avoir une idée maîtresse sur laquelle on allait tout accrocher pour faire aboutir le parti. Tout ça, c'était fascinant, c'était très intéressant, c'était une très bonne formation, mais je voyais que tous les autres étudiants qui avaient eu leur diplôme revenaient à l'école et faisaient durer le plaisir ou ne se dépêchaient pas de rentrer dans la vie active parce qu'il y avait une césure, un gouffre entre les ambitions d'un architecte qui allait refaire le monde. On nous demandait de bâtir des villes nouvelles, par exemple, c'était un des projets qu'on nous avait donné, et la réalité qui paraissait beaucoup plus terre à terre, qui se confinait à soit gratter dans une grande agence, soit être peut-être, si jamais on réussissait, architecte à son compte, mais à ce moment-là on ne faisait qu'une petite maison de vacances pour quelqu'un de riche. Et j'ai voulu prendre une année sabbatique, c'est un concept que j'avais appris d'une amie australienne, qui ont tous, parce qu'ils sont au bout du monde, pris l'habitude de mettre une année de battement, de voyage, de découverte entre le lycée et à l'université. Moi, j'avais déjà fait deux ans de Beaux-Arts, mais je me suis dit, je vais aller loin.
Et loin, c'était New York.
Hein. Oui, j'avais pas d'amour spécial pour les États-Unis, les Américains. Pour moi, les Américains, c'était les jeans USA sur le boulevard Saint-Germain, parce que la grande école, c'était qu'à Malakai, j'étais dans le quartier latin. Ça me fascinait pas spécialement, mais j'avais déjà été en Hollande, en Italie, en Espagne, tandis que les États-Unis, il fallait traverser un océan.
Vous êtes arrivé en septembre 1974 aux États-Unis. C'était pas très longtemps après 68. Alors en 68, vous étiez très jeune. En 74, vous étiez encore très jeune. Mais est-ce que vous étiez dans un contexte politisé à l'époque ?
Oui et non. En 1968, j'avais eu l'immense plaisir de découvrir Paris, moi qui avais grandi dans le 17e.
C'est encore Paris, hein. Notez bien.
C'était pas du tout la même chose. J'avais grandi dans un quartier résidentiel bourgeois, le 17e, des docteurs, comme mon papa d'ailleurs, hein, des avocats, quelques petits commerces, tandis que justement pendant mai 68, ma famille avait évacué comme tous les Parisiens, mais mon père était resté parce qu'il avait des malades, et il avait un caducé et ça lui donnait la permission d'avoir de l'essence. Et j'avais demandé à rester avec lui et c'était fascinant parce que dans un Paris désert, on écoutait la radio et on allait sous état de siège et on allait tous les soirs dans le Quartier Latin où on était accueillis à bras ouverts. Alors dans les universités qui étaient occupées, il y avait les locaux occupés, et aussi dans les restaurants qui perdaient l'électricité, donc qui vidaient leur frigo gratuitement sur les trottoirs, servaient des repas avec tout ce qui était en train de dégeler de leur congélateur. Et une atmosphère de discussion, des affiches un peu partout, des slogans qui changeaient tous les jours, des gens qui jouaient de la guitare. Bien sûr, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait rien. C'était une atmosphère d'espoir, de révolution, de vouloir changer les choses, d'une façon très, très constructive et très... qui m'a beaucoup servi par la suite, parce que je me suis rendu compte de la puissance d'un slogan, de la puissance des idées.
Des images.
Et d'être grossièrement arbitraire, de vouloir éclater des choses très compliquées, de pas trop se soucier de si c'était faisable ou pas, mais de montrer une direction.
Et de prendre un parti.
De prendre un parti, exactement. Mmh. Et après, après on verrait au moins de lancer un mouvement. Parce que bien sûr, les étudiants étaient en grève. Alors après, quand moi j'étais en grève dans les années d'après, quand j'étais à des manifs, je me rendais compte à quel point c'était ridicule quand on est étudiant de se mettre en grève, parce que c'est pas la même chose qu'un ouvrier d'usine ou un bureau, mais qu'il y a quand même un sentiment de solidarité possible et de vouloir faire acte de présence, de s'insérer dans la vie par son discours.
Dans les affiches de 68, puisque vous ensuite, avez tellement été intimement lié au monde du dessin, est-ce que dans les affiches de 68, il y en a qui vous avaient frappé à l'époque plus et dont vous pourriez vous souvenir maintenant ?
Pas de façon exacte, mais c'est cette direction d'abord, c'était la première fois que je voyais des choses collées sur les murs, des graffitis d'une certaine façon. J'ai fait ça plus tard quand j'ai fait un magazine. J'ai aussi voulu mettre des affiches sur les murs. J'y étais avec coller des trucs dans les rues à la sauvette à minuit. Il y avait cette direction à donner qui m'inspirait beaucoup, de vouloir justement trouver l'image qui allait, ou la série d'images qui allait indiquer des possibles qui autrement auraient été...
Qui allaient transformer le regard aussi de celui qui la voit.
Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qui était là pour communiquer.
Et Françoise Mouly, donc là, quand vous êtes partie à New York, si j'ai bien compris, une fois que vous êtes arrivée, au départ, vous n'avez pas eu l'impression de nouveau monde à laquelle vous attendiez.
Je ne m'attendais pas à grand-chose, je voulais faire un pas de côté, mais je pensais que ça allait me ramener à mon point de départ avec un petit peu plus de bagages ayant voyagé. Et en fait, je suis tombée dans un monde fascinant, le New York de 1974, qui n'était pas le monde nouveau avec des gratte-ciel et des immeubles, un peu ce que j'avais vu à Francfort quand j'y avais été, à ville rebâtie de façon moderne, mais qui était au contraire une espèce d'énorme machine déglinguée, un peu les temps modernes de Charlie Chaplin, avec des rouages un peu partout qui ne s'engrenaient pas les uns les autres, et qui créait tout un tas de possibilités. Une des choses qui m'avait coincée à Paris, c'est que c'était très cher de trouver un appartement. Alors j'habitais un peu dans une chambre de bonne en haut de là où j'avais grandi. Ça donne pas vraiment de sentiment d'indépendance. Tandis qu'à New York, j'ai fait des sauts de puce à YMCA en Armée du Salut, etc. Mais au bout de 2-3 mois, j'avais des petits boulots pour gagner de l'argent parce que j'avais très peu de fonds avec moi, je connaissais personne. Mais ma roommate à l'Armée du Salut m'avait aiguillé pour trouver un boulot où je vendais des magazines, des journaux, des paquets de cigarettes à Grand Central Station. Et avec l'argent que je gagnais, au noir d'ailleurs, j'avais pris un loft. Et pourquoi un loft? Parce que j'avais rencontré un architecte qui m'avait été un ami de quelqu'un que je connaissais à Paris. Et lui cherchait un loft qu'il allait louer et acheter. Et j'avais vu ces espaces industriels qui étaient plus utilisés par les fabriques de vêtements, etc. Et qui étaient pas chers, hein, et qui étaient immenses, hein, et qui étaient exactement cette... quand moi j'étais en école d'architecture, on ne construisait pas grand-chose dans nos débats, mais on démolissait beaucoup de concepts. Alors on démolissait par exemple l'idée du couloir. On avait décidé que les couloirs c'était pas bien, les placards c'était horrible, alors il fallait tout faire sans couloir, sans placard. On se retrouve avec l'idée d'un espace nu qui est le loft. Donc j'avais pris cet espace, je payais le loyer. Au bout d'un moment, j'ai pris une roommate et j'avais rencontré assez vite... un foyer d'artistes cinéastes, indépendants, qui était justement dans ce quartier de Soho parce qu'il y avait des espaces assez larges et pas très chers. Donc, ils montraient des films, mais c'était pas du cinéma, mais c'était des films indépendants qui étaient faits à la Super 8 avec des techniques narratives qui avaient beaucoup à voir avec le regard, justement, et savoir regarder. Je me souviens d'un film de Ernie Gare, par exemple, qui analyse ou qui montre pendant 1h30 une fissure dans le mur. Hein. Et
c'est une époque.
C'était une époque, mais à l'époque, moi, je lisais aussi du nouveau roman de Nathalie Sarraute et de Les Gommes. C'est un peu la fissure dans le mur pendant 1h30.
Vous qui êtes la femme des images, Françoise Mouly, vous êtes aussi lectrice. Vous étiez lectrice dès l'enfance?
Ah, toujours, oui. La lecture a toujours été... ce que je prenais avec moi, non seulement pour aller à l'école, je lisais en marchant, en traversant la rue, je lisais avant, après, pendant les cours, en vacances, dans le bain, je dévorais les livres et c'était une échappée vers le monde, j'avais un appétit de ça et j'adorais ça parce que justement avec la lecture on rentre dans un monde nouveau avec chaque livre dans l'esprit de la personne qui l'a écrit avec un langage différent, une histoire différente. On vit un mélange de la réalité et de l'imaginaire, hein, c'est fantastique.
Mais cette lecture, enfin, c'était quelque chose qui pouvait être associé avec déjà un goût pour l'image, pour le dessin, ou est-ce que ça vous est simplement arrivé après?
Ben, les deux vont de pair. Hein. J'ai jamais eu à choisir entre les images et les mots, en partie parce que je me suis toujours intéressée avec ce que je pouvais faire avec mes mains. Et les idées, j'ai pas passé beaucoup de temps dans ma vie à les contempler assise. J'ai toujours eu un cahier, un crayon, et c'est comme ça que je mettais mes idées à jour, écrire des lettres, ou dessiner, c'est une façon de penser qui passe justement par les images et les mots, mais par la création de quelque chose.
À partir de cette époque-là, Françoise Mouly, vous avez vécu pendant plusieurs années entre New York et Paris. Vous avez vécu dans un va-et-vient.
Oui, j'avais pas décidé de quitter la France et d'aller m'établir aux États-Unis, je pensais que j'allais juste faire un pas de côté. Je revenais en France et j'essayais de trouver à Paris ce que j'avais trouvé à New York. Et j'essayais de rencontrer des cinéastes ou des gens intéressants. Je me disais, il doit y avoir la même chose à Paris. Et ce que j'avais ressenti à New York, c'était que ma curiosité était bienvenue et que je pouvais poser des questions à tout le monde et qu'il y avait une espèce d'ouverture d'esprit. Tout le monde voulait être artiste, j'avais trouvé un loft, je connaissais des cinéastes, je parlais pas très bien anglais, mais à chaque fois que je m'intéressais à quelque chose, les gens étaient ravis qu'on leur pose des questions. Et quand je revenais à Paris, j'essayais de trouver la même chose et je trouvais le contraire, c'est-à-dire que je me faisais rabattre le caquet, mais qui êtes-vous pour poser des questions? Vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas fait des études là-dedans, je n'avais pas de passé et la curiosité n'était pas du tout bienvenue, au contraire, c'était une question de me remettre à ma place. Si vous voulez savoir quelque chose, faites 8 ans d'études et après, vous pourrez rentrer dans le cercle. Et ça me faisait repartir à New York à chaque fois. D'autant plus que, au point de vue immobilier, j'avais énormément de mal à trouver un endroit pour habiter à Paris et qu'à New York, j'avais ce loft, cet espace nu, ouvert, qui me permettait de me sentir à un point de départ, enfin toutes les possibilités étaient ouvertes.
Et maintenant, Françoise Mouly, quand vous êtes de retour à Paris, donc là maintenant ça fait plus de 40 ans que vous vivez, à un moment vous avez quand même décidé de choisir, on verra après, c'est aussi pour des questions d'amour que vous avez choisi, on en parlera demain soir, et puis de passion et de passion professionnelle, mais avant d'évoquer ça, quand maintenant vous vous retrouvez en France, dans quel état d'esprit êtes-vous ?
J'ai jamais cessé de faire l'aller-retour parce que ma famille est encore à Paris et bien sûr je viens régulièrement pour les voir. Mais si j'avais à mettre les choses au plus simple, à travailler, c'est New York parce que tout le monde est engagé dans sa passion, parce que tout le monde va droit au but, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire et qu'il y a peu de barrières. Si on a de l'énergie et de la volonté et des idées, on peut les mettre en œuvre. Et bien vivre, c'est à Paris. Je suis ravie quand je suis là d'aller acheter ma baguette, faire les courses au marché, rester assise à une terrasse de café, aller au cinéma où tout le monde se bat pour pouvoir rentrer et faire la queue. Enfin, il y a tout un tas de qualités, de facettes de la qualité de vie à Paris, à passer du temps avec des amis. À New York, tout le monde est obnubilé par son travail et il n'y a pratiquement rien d'autre. Il n'y a pas élever des enfants. Les Parisiennes ne se rendent pas compte, mais elles ont tout un tas de disponibilité de la part des crèches, des écoles, d'autres parents. Je passe dans la rue, je vois des parents attendre leurs enfants à la sortie de l'école. Ça me serre le cœur parce que mes gosses n'ont jamais eu ça. C'était des school bus. Il n'y avait pas ce groupe de parents qui discutaient ensemble. Les gosses qui jouent à cache-cache. Il n'y avait pas de square, de quartier, tout le monde est véhiculé d'un endroit à un autre. Et puis en plus, il n'y a pas de temps mort aux États-Unis.
Ah oui.
On ne vit que sur un calendrier qui est minuté. Et les Américains ne disent jamais « je suis en vacances » ou « je suis chez moi » ou « foutez-moi la paix ». Ils se battent tous à qui va travailler plus. Moi, je travaille 70 heures par semaine. Moi, je travaille 80 heures par semaine. Moi, je suis disponible à 3 heures du matin. C'est une espèce de renchérissement sur... sur la réalisation par le travail. Moi, tous, bien sûr, mon travail m'est très important, mais ce n'est pas tout dans la vie. Donc, j'aime bien avoir les deux. Mmh. Et puis, l'autre chose qui me plaît en France, c'est qu'on a on n'a pas peur d'avoir des opinions. Tandis que les Américains, surtout comme je travaille dans les médias, vu que je suis la directrice artistique du New Yorker, un des magazines... les plus proéminents des médias aux États-Unis, ont un désir d'objectivité qui me paraît timide, parce qu'ils veulent toujours donner la part des choses. Alors, si on raconte quelque chose, il faut aussi raconter le contraire, si on donne un point de vue. Tandis que ça m'a beaucoup servi, je trouve, d'être française.
Et de prendre un parti.
Tout à fait.
On y revient. Parce que vous avez exprimé des opinions politiques professionnellement ou...
Des
forcément.
Opinions.
Mais les oui. exprimer positivement, c'est une chose. Et puis les exprimer par les choix, c'en est une autre.
Oui, alors justement, c'est un des débats que j'ai avec beaucoup de mes collègues, que si on est journaliste aux États-Unis, on n'a pas le droit d'aller à une manif, on n'a pas le droit d'avoir une discussion publique de pour qui on va voter, etc. Il y a une espèce d'interdit. L'idée, c'est que le New York Times, par exemple, va vous raconter les deux côtés de la chose et le lecteur va au milieu pouvoir prendre son opinion. Tandis qu'en France, bien sûr, on a des journaux de gauche et des journaux de droite. Et si on est lecteur, on sait à quoi s'en tenir sur la direction politique du journal. Ce qui me paraît quand même moins hypocrite et plus honnête que de prétendre qu'on n'a pas d'opinion politique. Qui s'intéresse à ce qui se passe autour de lui ou autour d'elle et n'a pas d'opinion politique. Bien sûr, tout ce qu'on fait dans la vie a une dimension politique, surtout si on est dans les médias.
Mais Françoise Mouly, au New Yorker, quand on est directrice artistique, comme vous l'êtes, on a affaire à des dessinateurs qui, eux, ne sont pas dans cette mesure-là. Et on en reparlera de votre travail au New Yorker. On en reparlera un des soirs de cette semaine. Mais évidemment que vous avez affaire à des gens qui s'expriment. Ça vous est arrivé d'avoir des débats, soit avec vous-même, soit avec votre direction sur la question politique et la dimension politique de certains dessins?
Oui, mais ça m'a beaucoup servi depuis le début d'être en porte-à-faux, d'être une étrangère, d'être une immigrante, d'avoir un regard neuf. Parce que par exemple, en arrivant à New York, c'est pas comme si j'ai appris énormément sur les Américains, les New-Yorkais, parce que les New-Yorkais sont très divers en plus, mais ce qu'on apprend quand on sort de chez soi, quand on arrive ailleurs, c'est j'ai beaucoup appris sur à quel point j'étais française, à quel point j'étais parisienne, à quel point tout ce que je croyais être moi, une grande partie, était culturel, était ce que j'avais appris à l'école, ce que j'avais lu, ce que j'avais la culture dans laquelle j'avais baigné jusque-là. Et la différence entre les deux me faisait sentir, alors pas dans la partie xénophobe, ou dans mon cas, parce que j'étais française, j'avais un accent français. Alors j'ai été traitée en fait par tout un tas de francophiles comme « Ah oui, alors Paris, c'est merveilleux ». Si j'avais eu un accent espagnol, si j'avais été espagnole, j'aurais été sujette à tout un tas de discriminations, alors que bon, ces deux pays d'Europe, c'était... Ça me paraissait complètement arbitraire. Mais c'est tout aussi désagréable d'être jugé par une étiquette. Si c'est peut-être moins désagréable si c'est positif que si c'est négatif, mais c'est tout aussi aliénant. On sait que c'est pas soi. Mais il y a aussi quelque chose où on se rend compte, ah ben tiens, toute cette partie-là de ce que je pensais être mes convictions sont des idées reçues. Je m'y suis mis d'autant plus que je rencontrais des gens qui venaient de cultures complètement différentes. Ça, c'est un des avantages des grandes villes cosmopolites, hein, souvent d'ailleurs des ports, hein, parce que ça accueille des gens du monde entier, ce brassage de cultures, et on dit aux États-Unis, surtout pour New York, le melting pot. Hein. Ce que j'adorais, c'est que non seulement moi j'étais une étrangère, mais tout le monde, il n'y avait pas de majorité, il n'y avait pas 56% de New Yorkais avec 45% d'étrangers. Il y avait 7 à 8% de Pakistanais, tout autant de gens du Salvador, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Asie. Enfin, c'est un brassage et personne n'a la... Personne n'est l'hétérodoxie, c'est-à-dire que personne ne détient la culture dominante. Ni les blancs, ni les noirs, ni les hispaniques, ni les anglos.
Mais au bout de toutes ces années, Françoise Mouly, vous avez vécu beaucoup plus longtemps aux États-Unis qu'en France. Est-ce que vous vous sentez encore aussi française ?
Ben, J'aime bien ce côté porte-à-faux, justement. Quand je suis en France, je me sens française, mais je sais aussi qu'il me manque tout ce bagage culturel, parce que je n'ai pas vécu les 40 dernières années de la petite histoire. Hein. Je vis l'élection, la bagarre entre Marine Le Pen et Macron, tout à fait différemment.
Vous êtes certainement les deux, mais c'est aux États-Unis que vous vivez. C'est là-bas que vous avez trouvé la passion, à la fois celle qui est professionnellement pour le dessin qui fait une partie de votre vie, et puis la passion sentimentale, puisque c'est aussi là-bas que vous avez trouvé l'amour. Vous avez rencontré Art Spiegelman, qui n'était pas encore l'auteur de cette célébrissime bande dessinée Maus, et pas encore prix Pulitzer. Mais ça, nous en parlerons demain soir, si vous voulez bien. Donc merci beaucoup Françoise Mouly, et à demain.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Rérol avec Françoise Mouly. À voix nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Yann Frécy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.